Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Les dirigeants européens ne s'y sont pas trompés. L'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française est aussi une victoire pour l'Europe. Au registre des symboles, le futur chef de l'État a célébré sa victoire au son de l'ode à la joie de Beethoven, l'hymne européen. Et de Bruxelles à Londres, en commençant par Berlin, les félicitations se sont succédées hier. Bonjour Julien Méchaussier, vous êtes notre correspondant à Berlin. Un grand ouf de soulagement donc pour la chancelière Angela Merkel qui doit aussi affronter les urnes en septembre prochain et qui se félicite de voir le couple franco-allemand sauvé.
Oui, Angela Merkel qui a réagi dès hier soir après un entretien téléphonique avec le nouveau président. Et elle l'a fait hein, via son porte-parole avec des mots qui résument parfaitement le sentiment de soulagement ici, après la victoire donc d'Emmanuel Macron. Une victoire pour une Europe forte et unie et pour l'amitié franco-allemande. Un état d'esprit qui réunit hein, la gauche et la droite allemande. Sigmar Gabriel, le ministre des Affaires étrangères social-démocrate, souligne ainsi que la France est et reste au centre et dans le cœur de l'Europe. Et vous savez, ici, on retenait son souffle depuis plusieurs mois et l'Allemagne a vu très tôt en Macron le meilleur rempart contre le Front National.
Oui, d'autant, Julien, que l'Allemagne vote également cette année avec plusieurs scrutins régionaux importants, mais surtout, on l'a dit, avec les élections législatives en septembre prochain.
Oui, des législatives qui décideront de la prochaine ou du prochain chancelier. Et c'est également pour cela que les élections en France ont été suivies avec autant d'attention. Ici, une victoire de Marine Le Pen aurait évidemment eu un énorme impact et apporté de l'eau au moulin du parti populiste de droite de l'AFD, l'alternative pour l'Allemagne. Et les grands partis de gouvernement que sont les chrétiens démocrates de la CDU et les sociaux-démocrates du SPD auraient été contraints de revoir toute leur stratégie de campagne. Et vous l'avez dit, hein, Frédéric, il y a aussi ces scrutins régionaux qui constituent un véritable baromètre de la situation politique avant donc le mois de septembre. Hier, c'était dans le nord du pays que l'on votait dans le land du Schleswig-Holstein. Et avec 32% pour la CDU contre 27% pour le SPD, c'est bien Angela Merkel qui sort renforcée de ce scrutin.
Une belle victoire pour le parti de la chancelière qui peut également se féliciter du faible score obtenu par l'AFD.
Oui, alors qu'en France, le Front National a obtenu des résultats historiques au premier comme au second tour, eh bien ici, la courbe de l'AFD prend un tout autre chemin. Il y a quelques mois, l'AFD flirtait encore avec les 15% d'intention de vote au niveau national, enchaînait les succès lors de scrutins régionaux, et l'inquiétude montait avec dans le viseur ses législatives. Mais hier, dans le Schleswig-Holstein, l'AFD dépasse à peine la barre des 5%, un score qui lui permet certes de faire son entrée dans un nouveau parlement régional, mais qui reste très décevant pour ce parti qui aspire à devenir la plus grande force d'opposition à Angela Merkel.
Oui, d'autant que le vote d'hier vient confirmer une tendance déjà entrevue lors d'un précédent scrutin régional. C'était à la fin du mois de mars dernier en Sarre, Julien.
Là aussi, un score très décevant pour l'AFD avec 6% des voix. Alors, il y a plusieurs raisons à cette perte de vitesse d'un parti qui joue sur la corde nationaliste et dont plusieurs cadres ont été les auteurs de déclarations xénophobes. Créé en 2013, l'AFD, pour rappel, a pris son envol avec l'arrivée massive de réfugiés dans le pays à l'été 2015. Mais après les craintes suscitées par cette politique d'accueil d'Angela Merkel et les énormes défis qu'elle implique, le pays semble avoir su absorber l'arrivée de plus d'un million de réfugiés. Les centres d'accueil d'urgence sont vides, les cours d'intégration se mettent en place et surtout la vague de solidarité au sein de la société civile, elle, ne s'est pas estompée. Angela Merkel semble donc dans un premier temps avoir gagné son pari. La chancelière qui s'appuie sur une économie en très bonne santé, le plein emploi et surtout l'image de stabilité qu'elle renvoie. Des arguments qui semblent donc l'emporter ici sur la peur de l'autre et le repli sur soi.
Merci Julien Méchaussier. Prochain test pour l'AFD dès dimanche prochain dans le land le plus peuplé d'Allemagne, la Rhénanie du Nord-Westphalie. Et pour marquer un peu plus l'ancrage franco-allemand, le nouveau président devra se rendre rapidement pour une première visite officielle à Berlin.
If you've woken up too many times with that sinking feeling.
Et au Royaume-Uni aussi, la première ministre Theresa May a tenu à féliciter Emmanuel Macron, ajoutant que son pays, je cite, veut un partenariat fort avec une Union européenne sûre et prospère une fois que nous l'aurons quitté. Le candidat d'En Marche avait qualifié le Brexit de mauvais choix, mais c'est aussi pour une autre raison que la classe politique britannique suit avec énormément d'attention cette élection française. Les libéraux-démocrates, troisième force politique du pays, se prennent à rêver d'un renouveau centriste sur le modèle d'En Marche. Ses dirigeants ne cachent pas d'ailleurs qu'ils ont bien l'intention de s'en inspirer largement. À Londres, le reportage de Marie Billon.
Ils ont toujours regardé au-dessus de la Manche, vers le continent, avec intérêt et bienveillance. Mais cette année, les centristes du Parti libéral-démocrate ont même décidé de franchir le Rubicon. Certains sont allés étudier le phénomène Emmanuel Macron en France lors de sa campagne. Le soir du premier tour, galvanisant les troupes dans un pub privatisé pour l'occasion, Yigal El Harar, le représentant d'En Marche à Londres, assure pourtant qu'il n'y a pas d'accord au sommet, mais juste des affinités.
Beaucoup de partis politiques qui veulent et qui ont besoin de se renouveler viennent voir les méthodes qu'on a mises en place. Et c'est vrai qu'on avait des partis politiques britanniques qui sont venus vers nous par curiosité, mais également par attente. Comme on était les seuls à donner un message qui était résolument pro-européen, c'est vrai qu'on a attiré. Les libéraux-démocrates ont été très présents, c'est vrai, à nos réunions sur les derniers mois.
Yigal El Harar fait surtout référence au VIP qui a fait son apparition à certains meetings d'En Marche à Londres. Nick Clegg, l'ex-leader libéral-démocrate, ancien vice-premier ministre de 2010 à 2015. Mais il n'est pas le seul centriste à regarder Emmanuel Macron d'un œil très favorable. Le député Tom Brake l'avait félicité dans un tweet au soir du premier tour et confirme l'analyse d'Yigal.
Mon parti, le parti Liberal Democrats, est un parti internationaliste et donc s'il y a des bonnes idées, que ce soit au Canada ou en France, on va les prendre. Et donc je pense que pour nous, la percée de Macron, quelqu'un qui est pro l'Union européenne, c'est assez important. Nous voulons comprendre comment ça a été possible, puisque il y a près d'un an, bien sûr, en Grande-Bretagne, nous avons voté pour le Brexit, qui est le contraire de ce que Macron a déployé dans sa campagne.
Et puis ce n'est pas qu'un détail, les deux partis, le français et le britannique, partagent le même souci de réduire les déficits publics.
Il a été très intéressant de voir le programme de Macron. Le plan de réduire le nombre d'employés dans le secteur public, c'est une chose que nous avons fait avec le Parti conservateur dans la coalition. Malheureusement, je pense que c'est nécessaire. Donc il y a beaucoup de comparaisons entre nos deux partis, mais il y a une différence assez importante au niveau de son approche au niveau de l'Union européenne. Mon parti est un parti que je considère très européen, mais je pense que Macron veut aller plus loin avec ses propos d'avoir un ministre de l'économie pour la zone euro.
I am a bit of a Eurosceptic.
Car au Royaume-Uni, il est de bon ton de faire preuve d'un minimum de méfiance face au projet européen. Même l'actuel leader des Lib Dems, Tim Farron, a dû se déclarer un petit peu eurosceptique. Mais grâce à Emmanuel Macron, les centristes se sentent pousser des ailes. Tom Brake l'avoue à demi-mot alors qu'il s'apprête à rassembler ses affaires et quitter son bureau au sein du Parlement pour demander aux habitants de sa circonscription de le réélire pour la sixième fois. Presque par miracle, il a échappé il y a deux ans à la débâcle. 49 sièges de députés ont alors été perdus par les libéraux-démocrates. Aujourd'hui, ils croient au renouveau.
Avec le référendum en 2016, les gens ont presque complètement oublié ce qui s'est passé une année avant. Et donc maintenant, c'est une histoire de est-ce que les gens ont voté pour Brexit ou est-ce que les gens ont voté contre. Ça nous a permis de revenir à l'année zéro en ce qui concerne notre parti et la perception du parti Liberal Democrat.
C'est que le vent politique tourne. Les travaillistes, qui étaient jusqu'alors le principal parti d'opposition, ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Les Lib Dems rêvent donc de redevenir l'autre grande formation, ce qu'elle était jusqu'au 19e siècle lorsque le parti Whig était le seul adversaire des Tories. Bref, comme l'a exprimé le chef des Lib Dems, Tim Farron, sur le plateau de la célèbre émission politique de la BBC, The Andrew Marshall, il y a clairement une place à prendre.
Les travaillistes sont trop occupés à se battre entre eux. Ils ont abandonné leur rôle de parti d'opposition. Au nom de la démocratie, nous avons besoin d'une opposition forte. Et nous, les Lib Dems, nous sommes déterminés à prendre cette place.
Le Labour, divisé depuis l'arrivée de son nouveau leader, Jeremy Corbyn, ne semble même pas vouloir répliquer. Plusieurs grands noms travaillistes ont d'ailleurs annoncé qu'ils ne se représenteraient pas cette année, sans parler des transfuges qui ont quitté le Labour pour rejoindre les Lib Dems. Où cette prise de choix, Rachel Johnson, la propre sœur du ministre conservateur des Affaires étrangères Boris Johnson, elle aussi nouvelle célèbre encartée. Le parti a comptabilisé 50 000 adhérents en plus depuis le Brexit et vient de passer la barre record des plus de 100 000 membres. Mark Pack, un des militants libéral-démocrates, a formé plusieurs nouveaux volontaires pour faire du porte-à-porte. Il sent un vrai mouvement.
Il y a aussi de nombreuses donations, mais surtout c'est vrai, beaucoup de gens qui veulent participer à la campagne, mettre la main à la pâte. Et je pense que c'est dû au résultat du référendum qui en a secoué plus d'un. Ils se disent maintenant qu'ils doivent faire un peu plus que juste aller voter pour obtenir les résultats qu'ils désirent.
Les Lib Dems veulent surfer sur la vague Emmanuel Macron, mais en gardant un peu de recul. En 2010, ils pensaient avoir trouvé leur leader. On ne parlait que de Nick Clegg et de la Cleggmania, une bulle médiatique qui n'a pas tenu ses promesses.
We must recreate the European family in a regional structure, called it may be the United States of Europe.
La construction européenne, ligne de fracture au sein de l'Europe, mais aussi dans la société française, c'est ce qu'a révélé cette campagne où le vote Front National et celui de la France insoumise ont été des positionnements clairement anti-UE. Le défi du gouvernement sera de démontrer que loin du protectionnisme, l'Europe peut protéger de la mondialisation. C'est dans ce contexte agité que la Maison de l'Histoire européenne a ouvert ses portes à Bruxelles, un musée gratuit pour raconter les guerres et les défis qui ont émaillé la construction européenne et insister sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise. Visite sur place avec Laxmi Lotha.
Depuis la révolution industrielle à la création de la sécurité sociale en passant par les deux guerres mondiales, les visiteurs traversent les époques en montant les 6 étages de cette maison. Parmi les objets remarquables, une Bible qui a empêché un soldat allemand de mourir pendant la Seconde Guerre mondiale grâce à sa fermeture métallique. Dans les vitrines, des obus, des masques à gaz, une pièce toute noire est consacrée à la mémoire des victimes des nazis. Guerre froide, mur de Berlin, les combats, les révolutions sont relatés à travers des affiches, la lutte pour le droit à l'avortement par exemple. Ainsi, les visiteurs se replongent-ils dans toute l'histoire commune européenne pour peut-être mieux apprécier les acquis et la paix d'aujourd'hui. Il y a également tous les traités, les signatures de celles et ceux qui ont fait l'Europe. Le musée se visite comme une maison, étage par étage. Une manière de dire aux citoyens, ne rejetez pas votre chez-vous dans l'ambiance eurosceptique du moment. Le dernier étage est consacré à l'époque actuelle, Brexit, crise des migrants, crise de confiance et appel à la critique. L'exposition temporaire, elle, s'intitule « Interaction ». On peut s'asseoir à table pour voir les recettes européennes, d'où viennent les frites, les escalopes, les raviolis. On peut s'allonger dans un lit et écouter des contes traditionnels européens, sentir des parfums comme l'eau de Cologne et découvrir que tous ces objets, toutes ces traditions qui nous sont familiers et ordinaires sont le résultat d'un mélange de cultures, des voyages et des échanges entre pays. Un seul exemple, le fameux croissant n'est pas français mais d'origine autrichienne.
Et avant la passation de pouvoir, l'heure est encore aux discours et aux promesses, l'occasion de prendre un peu de recul sur ces engagements pas toujours tenus. L'historien Bruno Fulini signe une histoire amusée des promesses électorales de 1848 à nos jours, aux éditions Taillandier. Des promesses qui voient le jour en même temps que l'introduction du suffrage universel pour les hommes en 1848. Bruno Fulini, interrogé par Catherine Roland.
À partir du moment où il y a des élections, et surtout des élections au suffrage universel, eh bien on voit fleurir des affiches dans les rues. On voit se multiplier des feuilles volantes, on invente le tract, ça correspond aussi à un âge d'or de l'imprimerie, et donc toutes sortes de candidats se lancent à l'assaut du corps électoral en promettant toutes sortes de choses.
Alors on vient de sortir d'une période électorale plutôt longue, et des promesses, on en a entendu. Alors ces promesses, est-ce qu'elles sont particulières à chaque siècle ou finalement sont-elles pour la plupart du temps toujours les mêmes ?
Il y a des constantes. D'abord, la première promesse du candidat, c'est lui-même. Et il est étonnant de voir comment à toutes les époques, le candidat consacre une bonne partie de sa propagande électorale à parler de lui. Il est sympathique, il est compétent, il est proche de vous. Et même s'il est très diplômé, très riche, qu'il habite un château, sa porte vous est naturellement ouverte, etc. Autre constante, bien sûr, le dénigrement de l'adversaire. Si l'adversaire est de droite, alors là c'est la dictature, l'arbitraire, le retour aux âges sombres qui s'annonce. Mais si l'adversaire est de gauche, c'est la terreur, la guillotine, les spoliations, les bandes bolcheviques qui arrivent. Bon, donc on ne fait pas dans la nuance. Et c'est seulement après qu'il y a une dimension programmatique qui parfois est assez vague, qui parfois est plus précise. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez parfois des nouveautés qui pointent. Au XIXe siècle, ceux qui proposent que les femmes votent, voire soient éligibles, passent pour des fous, hein, littéralement. Ce sont des fous, on en rit, on les trouve aberrants. Et puis l'idée va faire son chemin et vous connaissez la suite. Et on pourrait multiplier ce genre d'exemples. Il est vrai que l'intérêt du candidat qui veut vraiment être élu a intérêt à être vague pour que tout électeur puisse projeter sur lui son monde idéal. D'où ces formules parfois très enveloppantes, qui peuvent être assez sonores, assez poétiques, mais qui n'ont pas beaucoup de sens, comme Jean Le Canuet en 1965, qui promettait la stabilité avec la liberté dans le mouvement. Ce qui n'a strictement aucun sens, mais qui sonnait bien et qui pouvait convenir à un électorat assez large.
Alors, ce dont on s'aperçoit également, c'est qu'il y avait un langage assez littéraire à l'époque. Est-ce qu'il a vraiment beaucoup changé aujourd'hui, au XXIe siècle ?
Oui, le langage politique a complètement changé, parce que le degré de culture, d'abord, des candidats n'est pas le même, parce que nous ne sacralisons plus la vie publique comme ce pouvait être le cas au début du suffrage universel, quand cette conquête était révérée comme un immense progrès. Parce que aussi, n'oublions pas que lorsque nous parlons de profession de foi, nous utilisons un vocabulaire religieux. Et très souvent, dans les programmes électoraux des candidats du XIXe siècle, du début du XXe siècle, il y a une dimension soit religieuse, soit philosophique. C'est-à-dire qu'avant d'énoncer des mesures fiscales, économiques ou institutionnelles, eh bien, le candidat présente sa vision du monde. Aujourd'hui, on regarderait sans doute bizarrement un candidat qui commencerait par vous expliquer le sens de la vie, la place de l'homme dans l'univers, etc. Mais c'était l'ambition des candidats au début de l'ère démocratique, si je puis dire.
Mais c'est peut-être aussi l'époque qui va beaucoup plus vite. Est-ce que c'est aussi l'arrivée de la télé et d'Internet qui font que les promesses, d'ailleurs on parle de programme aujourd'hui, ont changé de nature ?
Elles ont changé de nature. La relation au texte aussi est différente. Ce qui est frappant si on regarde les documents électoraux contemporains, c'est que le texte a beaucoup reculé au profit du slogan et de l'image. Hein, il faut savoir qu'en 1848, le premier candidat Adolphe Bertrand, qui a l'idée de coller des photographies de lui au milieu de ses affiches, passe vraiment pour un fou. Et puis le texte aussi s'est déstructuré. C'est-à-dire qu'on a très rarement un seul et unique texte bien structuré en partie, sous partie. On a plutôt des textes éclatés avec du gros caractère. C'est-à-dire que là, la communication aussi s'est emparée de ce travail-là très particulier de rédaction de la profession de foi ou de l'engagement électoral. Parce que c'est une autre façon pour le candidat de montrer sa sincérité, de montrer qu'il a la main à la pâte, comme s'il écrivait directement à chacun des électeurs.
Pour finir, Bruno Fellini, est-ce que vous avez retenu une promesse électorale en particulier ?
Alors, bien sûr, il y a la suppression des armées permanentes qui avait été promise par Gambetta aux ouvriers de Belleville qui lui ont fait un triomphe. Malheureusement, c'était en 1869. L'année suivante, c'était la guerre et cette promesse-là a été abandonnée. Gambetta a fait plein d'autres promesses qui, elles, seront réalisées et qui vont donner toutes les grandes lois de la République. Mais la dernière d'entre elles, la loi de 1905 sur la laïcité, eh bien, Gambetta ne la verra pas. Il est mort depuis longtemps lorsque cette promesse qu'il a formulée est réalisée. Et vous voyez, une promesse formulé en 1869, réalisé en 1905 et au cœur du débat en 2017, ça montre bien que les idées politiques ont une vie propre et une vie beaucoup plus longue que celle des campagnes électorales et même des candidats.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Sophie Janin. Retrouvez-nous sur notre site et sur les réseaux sociaux. À demain.